Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. La bataille de la rue de Rivoli ne fait que commencer et elle sera rude. C'est sur cette artère où circulent 1300 véhicules par heure que la mairie de Paris a décidé de poser la première pierre de son vaste plan vélo. 700 km de pistes cyclables à terme, à commencer donc par cet axe majeur qui traverse Paris d'est en ouest et où les voitures seront priées de laisser place. Une seule file désormais au lieu de deux actuellement. Alors les travaux viennent de commencer mais le projet continue d'inquiéter. Comment assurer les livraisons dans cette rue commerçante? Les véhicules de secours ou de police pourront-ils circuler facilement? Et surtout, faut-il s'attendre à d'interminables bouchons dans cette zone de l'hypercentre? Car même dans les rêves les plus fous d'Anne Hidalgo, il est à parier que tous les automobilistes ne se convertiront pas au vélo ou à la trottinette. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et si la bataille de Rivoli occupe surtout les Parisiens, de nombreuses villes en France considèrent les voitures comme des indésirables, polluantes, encombrantes, dangereuses et surtout trop nombreuses. Après un siècle du tout automobile, comment désengorger les centres tout en les gardant accessibles à tous? Faut-il chasser les voitures des villes? Eh bien, c'est la discussion que nous aurons ce soir avec trois invités. Frédéric Errand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et urbaniste. Vous êtes maître de conférence à l'université Lille 1 et chercheur au CLERCE. Le CLERCE, c'est le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Et vous êtes l'auteur de Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050, paru aux éditions La Découverte en 2014. À vos côtés pour discuter ce soir, Jean-Pierre Orfeuille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite de l'Université Paris-Est et collaborateur à l'Institut pour la Ville en Mouvement, auteur de deux ouvrages, l'un avec Mathieu Flonneau, Vive la route, vive la République, paru aux éditions de l'Aube 2016, et puis, plus directement en lien que notre émission ce soir, La Ville cohérente, coécrit avec Aimé Corsu et Marie-Hélène Massot, paru à la Documentation française en 2012. Et notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Il s'agit d'Hélène Régnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités, chercheuse à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-en-Provence. Vous êtes aussi co-rédactrice en chef de la revue Métropole et puis vous êtes l'auteur avec Frédéric Hernandez et Thierry Brenac de Nouvelles idéologies urbaines, dictionnaire critique de la ville mobile, verte et sûre, paru aux presses universitaires de Rennes en 2013.
Ce chronomètre que vous venez de voir démarrer est un symbole. Chaque jour, dans toutes les villes de France, ceux qui se rendent à leur travail en voiture se disent « Aujourd'hui, combien de temps vais-je mettre ?» Car il y a toujours les feux, les embouteillages, l'imprévu. Le chronomètre qui tourne dans cette voiture va nous indiquer le temps mis pour faire dans Paris un parcours très simple. Les 13 km qui séparent le pont d'Auteuil du pont de Bercy sur les quais de la rive droite. Si nous avons pris ce parcours, c'est parce qu'il va changer. Au lieu d'être une série de rues et de quais avec des feux rouges et des croisements, il va devenir une seule voie express, sans feu rouge, sans croisement. Ce ne sera pas une autoroute, mais une voie rapide permettant d'arriver vite dans le centre de Paris. Et au lieu des 26 minutes 30 secondes mises en plein mois de juillet, comme vous allez le voir, pour faire ce trajet, il faudra alors environ un quart d'heure.
Alors un reportage, un extrait d'une archive INA diffusée en 64, c'était juste avant l'ouverture de la voie express sur les berges à Paris. Je vous ai vu sourire légèrement à l'écoute de cette archive, Frédéric Errand. En tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est qu'à l'époque, la priorité, c'est faciliter la vie des automobilistes.
Oui, et ça a commencé en fait dès 1900. Quand la voiture s'est révélée à peu près au point au salon de l'auto de 1900, depuis lors, et jusqu'en 1990, la voiture n'a cessé de progresser dans Paris, hormis les deux guerres mondiales. Et depuis 1990, le trafic auto dans Paris décroît. Donc ce qui arrive aujourd'hui, rue de Rivoli s'inscrit déjà dans un mouvement qui a déjà 27 ans. Et c'est donc pas du tout la gauche qui a commencé à réduire le trafic auto dans Paris, mais la droite. Et Chirac même, en mettant d'horribles plots pour empêcher les voitures de stationner partout. Des potelets, vous voyez, des petits poteaux sur les trottoirs pour empêcher les voitures d'inonder les trottoirs, d'empêcher les piétons de circuler. Le reflux automobile a commencé déjà à ce moment-là. Alors lentement au début, puis ensuite un peu plus vite avec Tibéri, ça s'est encore accéléré avec Delanoë, et ça continue à peu près au même rythme avec Madame Hidalgo.
Hélène Régnier, vous partagez ce constat qu'effectivement, jusque dans les années 90, la voiture, quelque part, va dans le sens de l'histoire. Et c'est la ville qui doit s'y adapter. Et c'est une évidence, à l'époque, que personne ne remet en cause.
Oui, et cette archive montre bien aussi comme à quel point la modernité a changé de camp. Et comment depuis une vingtaine d'années, 1996, c'est la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. L'État demande aux collectivités, impose, hein, c'est plus que demande aux collectivités locales de plus de 100 000 habitants de réfléchir pour proposer un système de transport et de déplacement qui soit moins favorable, moins exclusivement tourné vers l'automobile. Donc ça, c'est en 1996. On a maintenant une vingtaine d'années de recul sur l'analyse de ces politiques publiques qui visaient à libérer la ville de l'automobile, à encourager ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire que la part de marché de l'automobile recule pour faire la place à d'autres modes de déplacement, les transports publics, les modes dits doux, marche à pied, pratique du vélo. Et voilà, donc on a maintenant depuis une vingtaine d'années, alors à cette échelle des villes, des agglomérations, des cœurs d'agglomération, des politiques qui effectivement cherche à libérer la ville de l'automobile.
Mais pardon, Hélène Régnier, à quel point justement on a vraiment une inversion de la manière de voir l'automobile? Est-ce qu'on n'a pas quand même encore un peu une prégnance de ce qui a imprégné notre manière de concevoir la ville et les transports durant tout le siècle dernier? Voilà, à quel point vraiment là on est dans une révolution, on va dire?
Eh bien, c'est la suite du raisonnement. C'est que à quelle échelle on travaille? Donc, en fait, on observe sur ces cœurs d'agglomération, voire même parfois uniquement sur la ville-centre, parfois même, je force encore un peu le trait, uniquement sur l'hypercentre de la ville-centre, des politiques qui on réintroduit le tramway, donc on propose une nouvelle offre de transport public, on restreint une offre de stationnement en surface, on piétonnise, on fait la promotion des modes doux en donnant de nouveaux espaces aux piétons et aux cyclistes, mais sur des espaces très restreints. Mais si on change d'échelle et qu'on regarde les agglomérations, si on regarde ce phénomène de métropolisation, l'automobile est toujours au cœur du système. On est toujours dans un système automobile. Et c'est bien l'ambivalence de ces politiques publiques. Et une des raisons pour lesquelles leur bilan est un peu mitigé, c'est que, à une échelle beaucoup plus large, celle de l'accroissement des mobilités, celle de notre besoin de gain de temps, de vitesse pour vivre dans nos sociétés contemporaines, on continue de mettre pas mal de sous dans les infrastructures routières pour améliorer, boucler la rocade, créer un nouvel échangeur pour desservir une nouvelle zone d'activité et favoriser la vitesse, la fluidité, le trafic, lutter contre la congestion parce qu'il faut pas perdre de temps, il faut aller vite.
La fin du règne du tout-voiture, c'est pas encore pour demain, Jean-Pierre Orfeuille?
Non, c'est certainement pas encore pour demain, parce que dans énormément d'espaces, c'est extrêmement difficile pour les gens de vivre sans voiture. Hein. Tout le monde n'habite pas ou n'a pas des choses à faire rue de Rivoli. Hein. C'est un cas où, effectivement... à l'évidence, à l'exception de personnes en difficulté de mobilité, à mobilité très réduite, etc. Il y a des milliers d'alternatives, en tout cas des dizaines d'alternatives possibles. Mais si je reviens à votre archive, il y avait deux choses hein, dedans. Il y avait cet amour de la voiture hein, qui a pu y avoir dans les années 60, symbole de modernité, comme on l'a dit. Et puis, il y avait cet amour de la vitesse, de la rapidité, de pouvoir aller d'un point à un autre très très rapidement. Et je constate que celui-là, on n'a pas perdu du tout. Enfin, on parle d'un investissement de pistes cyclables de quelques dizaines de millions d'euros, j'imagine, rue de Rivoli. Mais je rappelle que le Grand Paris Express, qui est censé nous faire nous sauver de bien des choses, c'est 30 milliards d'euros pour se déplacer au sein de l'Île-de-France. Et donc, cette histoire de vitesse, je crois que c'est peut-être plus ça qu'il faut interroger que la seule question automobile qui est intéressante, bien sûr. Mais je voudrais citer un autre, quelqu'un qui a observé un autre endroit qui est Londres. Londres qui a imposé, comme vous le savez, un péage urbain très lourd au centre de l'agglomération, qui a fait aussi beaucoup, et très bien d'ailleurs, de couloirs bus très efficaces, qui est en train de faire des pistes cyclables et qui est toujours aussi congestionné. Hein. Et quelqu'un de la London School of Economics a sorti une phrase, moi, qui me semble bien révéler les contradictions de notre époque. Elle dit « il y a pratiquement plus de voitures individuelles qui circulent au centre de Londres, presque plus. » Et néanmoins, la congestion est encore pire qu'avant. Et c'est des livraisons, c'est des taxis ou assimilés de type Uber et autres. Et c'est bien évidemment le fait qu'il y a de moins en moins d'espace pour circuler, pour tous ces véhicules-là, circuler ou stationner. Hein. Je pense qu'il y a deux choses, moi, qui m'intéressent dans ces dialogues. C'est, est-ce qu'on a abandonné toute idée de vitesse? Non, je ne pense pas. Bien au contraire. Et le deuxième point, c'est, est-ce qu'on va résoudre les problèmes auxquels on prétend s'attaquer? On va fabriquer une autre ville. Hein, et tant mieux s'il y a plus de cyclistes qui peuvent circuler. Moi, ça me réjouit. En revanche, dire qu'on en aura fini avec les congestions, j'en suis pas si sûr que ça.
Alors on va revenir sur les manières, hein, et puis peut-être les contradictions parfois des politiques pour faire sortir, désengorger les centres-villes. Mais vous avez dit, Jean-Pierre Orfeuille, on conserve dans nos sociétés un amour de la voiture. Frédéric Héran, est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce qu'on n'est pas plutôt de plus en plus dans un climat
un peu...
pas
de la voiture.
Alors, j'ai cru entendre ça au début... On n'est pas plutôt dans un climat de plus en plus anti-voiture, en tout cas à l'échelle des grandes métropoles?
Oui, il faut prendre un recul géographique et historique pour comprendre ce qui se passe. En fait, le tout automobile, on peut lui donner déjà un contenu, c'est la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. Symbole de modernité, de vitesse, il paraissait naturel à aux contemporains des années 50-60... de donner toute liberté à cette voiture pour se libérer de la fatigue, de la marche et du pédalage. C'était un progrès formidable. Mais malheureusement, cette voiture est arrivée avec énormément d'externalités négatives, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de nuisances en tout genre. Et en particulier, la première nuisance, c'est la consommation d'espace. Elle prend une place absolument gigantesque par rapport à un piéton ou à un cycliste ou même à un usager des transports publics. Où la mettre? C'était la question de ces années de croissance d'après-guerre. Et on a essayé de pousser les murs, mais c'était évidemment bon. Il y a eu quantité de mesures pour lui faire plus de place. Elle a aussi provoqué des accidents, du bruit, de la pollution, enfin, beaucoup de nuisances en tout genre. Et les populations se sont révoltées. Et tout cela a commencé dans deux pays, comme par hasard les plus anciennement urbanisés d'Europe, que sont l'Italie du Nord, de la Renaissance, les villes de la Renaissance, où il y avait déjà 45% de la population qui vivait dans les villes à cette époque, à la Renaissance. Et aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, l'âge d'or des Pays-Bas, vous avez déjà plus de la moitié de la population qui habitait dans des villes. Donc c'est dans ces deux pays qu'on a commencé à remettre en cause la voiture. Par toutes sortes d'événements, notamment des manifestations de la population. Et la voiture reflue depuis, en commençant par ces deux pays, en commençant par les centres-villes. Et ça se diffuse à tous les niveaux avec quantité de décalage. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que la voiture reflue, certes, donc vous voyez, d'abord dans les pays les plus anciennement urbanisés, ensuite dans les villes les plus grandes, d'abord dans les centres-villes, d'abord chez les populations les plus éduquées, d'abord chez les jeunes, etc. Il y a avec quantité de décalage. Et donc quand on a une vision synchronique, comme celle que vient de développer Hélène Régnier, eh bien, tout paraît très confus. C'est-à-dire qu'on a à la fois des endroits où la voiture reflue et d'autres où elle progresse encore.
Oui, parce que j'allais dire, vous décrivez effectivement un mouvement un peu général dans certains pays en Europe, de grandes villes qui tendent à repousser la voiture, en tout cas à la limiter, etc.
Oui. Si on prend une vision diachronique, c'est-à-dire vraiment de longue période, hein, alors le panorama est tout autre. C'est-à-dire qu'on voit, on s'aperçoit que la question des centres du reflux de la voiture dans les centres-villes et dans les grandes villes est à peu près acquis. Ça pose plus trop de problèmes. Bon, ça grince un peu, mais enfin, c'est quand même largement acquis. En proche périphérie, c'est en débat. Parfois, c'est déjà acquis, parfois non. En grande périphérie, c'est plus discuté, beaucoup plus discuté. Mais on voit poindre, y compris en grande périphérie, des gens qui soudain disent « Mais on aimerait bien que nos enfants puissent aller seuls à l'école à pied, par exemple, et que les trottoirs soient libérés, existent d'abord, ils soient libérés des voitures en stationnement illicite. »
Oui, j'allais dire, pour aller dans votre sens, on peut aussi constater que certaines villes décident plutôt le contraire. Alors, ce sont plutôt des villes moyennes, mais en France, des villes comme Tourcoing, Béthune, Thionville, qui sont plutôt allées ces dernières années dans le sens de redonner une place à la voiture. Est-ce que ce sont des exceptions, justement, dans un mouvement général inverse mais de quoi témoignent-elles? C'est-à-dire, est-ce que peut-être, finalement, que limiter la voiture en centre-ville, l'intérêt n'est pas si évident que ça, Hélène Régnier.
Mais ça dépend de quelle nuisance. En fait, dans ce débat, on chasse l'automobile de la ville, mais pourquoi faire? Pour gagner de la place, et Frédéric Héran parlait de la consommation d'espace, pour améliorer la qualité de l'air local, c'est l'enjeu qui a une certaine actualité des particules fines. On le fait pour qu'il y ait moins de bruit. On le fait pour limiter globalement les émissions de gaz à effet de serre. On le fait pour requalifier un quartier. Donc, en fait, derrière cette mesure un peu générique où on déplace, où on cache, où on limite la présence de la voiture, il y a tout un tas d'objectifs différents et évidemment on peut pas tous les atteindre.
Mais est-ce que vous trouvez, Hélène Régnier, que les municipalités ne sont pas au clair sur leurs objectifs ou qu'elles essayent de mélanger plusieurs objectifs, par exemple, et lutter contre la pollution, et lutter contre le manque de place, et lutter contre les nuisances sonores? Justement, c'est intéressant la question que vous posez de justement pourquoi est-ce qu'on veut chasser les villes, mais ça relève des politiques publiques.
Oui, mais j'aime bien votre question parce que justement, par rapport à un débat où on dit oui, non, je suis contre, je suis pour, en fait, c'est pourquoi faire? Et moi, j'ai fait un tour d'horizon de ces agglomérations qui sont, qui bâtissent des plans de déplacement urbain, qui réfléchissent, qui se projettent et puis qui expliquent à leurs concitoyens, à leurs administrés pourquoi elles vont mener tel projet de piétonnisation, pourquoi elles vont. Et dans ces registres de justification des projets, on trouve plein de choses. Et ce que je voudrais souligner, c'est que il y a des différences, mais il y a quelque chose qui est commun à bon nombre de ces projets qui visent à limiter la place de l'automobile dans les centres-villes. C'est qu'ils sont très souvent associés à des projets de revalorisation et à de requalification de quartiers et d'espaces publics. Et de fait, ces projets, on a maintenant assez de recul pour mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir en termes de revalorisation. Ce sont effectivement de bons outils pour augmenter la valeur d'un quartier, lui changer son image, et ça a un effet très direct sur les prix fonciers immobiliers. Rennes fait un métro, Rennes arrive à peu près à mesurer l'impact du métro sur son marché foncier immobilier et à quelle échelle. On le sait pour ces infrastructures, on arrive maintenant à savoir assez précisément l'effet qu'elles ont sur les quartiers dans lesquels elles s'insèrent. Et cet objectif-là, il est, je le critique pas en tant que tel, sauf que très souvent on brandit l'étendard de la mobilité durable, alors que un certain nombre de projets dits en faveur de la mobilité durable sont pas là du tout pour résoudre des problèmes de transport, de déplacement et de mobilité. Ils sont là pour revaloriser des quartiers. C'est pas illégitime, mais ça peut être problématique quand c'est dissimulé derrière l'étendard, la noble cause. Difficile à critiquer de la mobilité durable. Moi, je suis pas parisienne, là, je suis en duplex à Aix, je connais très bien les projets qui sont conduits à Marseille aujourd'hui. À Marseille, c'est assez explicite. Le tramway, la piétonnisation du Vieux-Port, c'est pas fait pour résoudre des problèmes de mobilité durable. On enterre la voiture, on fait des parcs souterrains, on fait des tunnels, on la déplace un peu. L'enjeu est surtout, et l'enjeu est assez assumé, c'est de changer l'image du centre-ville paupérisé, populaire de Marseille. De faire une belle vitrine urbaine dans cette calanque qu'est le Vieux-Port.
Donc des objectifs qui sont peut-être pas toujours clairement assumés ou affichés de manière transparente. Jean-Pierre Orfeuille, sur cette question. Pourquoi oui. Est-ce qu'on chasse Alors chasser, c'est un grand mot, mais pourquoi est-ce qu'on veut réduire, au nom de quoi il faudrait réduire la présence des voitures en centre-ville?
Réduire la présence des voitures en centre-ville, il y a d'une part des questions d'externalité qu'a signalé Frédéric, des pollutions, du bruit, des nuisances, enfin bon, etc., etc. Mais fondamentalement, je crois que la vraie raison, c'est quand même aussi la place et le fait que, basiquement, tout le monde ne peut pas venir en voiture dans un centre-ville d'une grande agglomération. Et donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, organiser le fait que seule une partie de la population qui le souhaite pourra y accéder. Alors ça peut se faire à la chinoise en donnant des droits ou pas d'acheter une voiture. Ça peut se faire à l'anglaise avec des péages. Ça peut se faire à la parisienne en restreignant l'espace. Bon.
Ça, mais la question, c'est quelle population, puisque comme le disait Hélène Régnier, après, avec les projets de revalorisation des centres-villes, ce sont, on l'imagine, plutôt des populations aisées qui vont pouvoir payer les loyers qui vont augmenter dans les centres plus agréables. Et donc, du coup, on a une sorte de discrimination un peu sociale dans cette manière de voir les choses, peut-être.
Bon, c'est aussi, effectivement, quand on a des politiques antisociales, en général, on prend un masque pour les mener. Hein. On ne les mène pas de façon complètement ouverte. Mais je crois qu'on ne peut pas résumer les choses à ça, parce que là, on est revenu sur Marseille, qui est quand même une très, très grande ville, hein, où le problème que je pose est prégnant. Hein. Tout le monde ne peut pas accéder au Vieux-Port en voiture. Bon, voilà, c'est simple. Vous citiez Hayange, Roubaix ou autre. Là, vous avez plutôt des villes qui sont de petite taille, où on ne peut pas prétendre faire des métros. Enfin, à Roubaix, il y a un tram, effectivement, qui passe, parce que Roubaix est à côté de Lille.
Alors, en fait, c'était Tourcoing, Thionville, Béthune, plutôt, voilà.
Dans ces cas-là, la contrainte d'espace est souvent beaucoup moins prégnante. L'urbanisme devrait être capable de concilier de l'agrément d'espace avec de l'accessibilité relativement aisée en voiture, quitte à les mettre dans les parcs souterrains, il y en a très largement. Et je crois que des politiques un peu rapide, un peu bête, dans ces villes très moyennes ou petites, hein, peuvent conduire aussi à ou aider à ce, au fait que les centres se dévitalisent, que les commerces disparaissent. Bon, quand vous êtes commerçant, vous avez besoin qu'il y ait des gens qui viennent, qui soient intéressés par vos commerces. Ils peuvent être intéressés parce que c'est agréable de se promener dans le quartier. Et dans ce cas-là, la piétonnisation est une bonne chose. Ils peuvent être intéressés basiquement pour faire leurs achats ou autres. Et là, si on complique un peu trop les choses, on ne peut pas trop, après, s'étonner que des périphéries un peu dégueulasses, avec des commerces un peu mal foutus, trouvent du succès. Donc, je crois qu'il y a, à un moment donné, quand on parle des très très grandes villes, les équilibres ne sont pas menacés. Quand on parle des villes moyennes et qu'entre aller au centre-ville et aller dans la périphérie d'à côté, il y a 2 kilomètres de différence... si vous compliquez trop la vie des gens, ou si vous leur offrez pas des opportunités différentes, par exemple venir en vélo assistance électrique ou des choses comme ça, qui sont souvent tout à fait possibles. Là, je veux dire quand on se laisse aller à la haine anti-automobile, là on fait des bêtises.
Alors la haine anti. Alors pour peut-être préciser l'exemple que je donnais. Alors en particulier par exemple la ville de Tourcoing. Je me basais sur les propos de son ancien maire Gérald Darmanin, qui avait expressément promis pendant sa campagne de dire voilà, moi je vais donner plus de place je vais faciliter l'arrivée en voiture au centre-ville, notamment pour les populations des périphéries, disant voilà, quand on est une famille d'ouvriers, on a c'est le moyen de transport que l'on utilise le plus, on a besoin d'aller en centre-ville. Et donc la question, Frédéric Errand, était, voilà, est-ce que finalement l'idée de sortir les voitures des villes, ça a beaucoup d'intérêt, ça lutte contre les nuisances, mais ça n'a peut-être pas des intérêts pour tout le monde.
Non, mais les quelques villes que vous avez citées sont marginales et c'était largement lié à des postures politiques.
Donc c'est plutôt des exceptions, ah, oui, dans un mouvement général.
Si on prend l'exemple de Tourcoing, que je connais pas mal, l'offre de stationnement est parfaitement suffisante en hypercentre. Simplement, il fallait aller dans, lisser dans le sens du poil certains électeurs. Et le maire a donc symboliquement remis quelques places de stationnement devant sa mairie, mais ça reste totalement symbolique. En fait, il se heurte à des réalités financières. Quand il demande à la communauté urbaine de Lille, aujourd'hui métropole européenne de Lille, de créer de nouveaux stationnements, elle répond, les services techniques répondent très simplement, mais et si on occupait déjà les places existantes ? Voilà. Et puis, ça s'est arrêté comme ça. Bon, mais j'aimerais dire que la question n'est pas limitée au centre-ville. Du tout, du tout. Certes, c'est ça qui fait l'actualité, c'est cela qu'on regarde, c'est cela que les médias observent, surtout, mais c'est un phénomène, je le redis, européen, en fait, occidental, qui gagne même les pays en voie de développement, enfin, émergents. Même à Shanghai, il y a des politiques désormais de réduction du trafic auto dans certains quartiers. Enfin, eux, ils ont tout en même temps. Ils construisent une quantité d'autoroutes et en même temps se rendent compte déjà que c'est un problème, que tout ça génère un trafic auto qui provoque beaucoup de nuisances, et ils commencent déjà à réduire à certains endroits la voiture. Donc bref, c'est un phénomène qui touche toutes les formes urbaines, mais qui en est à des développements différents. C'est-à-dire, en centre-ville, c'est beaucoup plus avancé qu'en proche périphérie, et a fortiori qu'en grande périphérie. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais en grande périphérie, on a déjà les prémices d'un reflux automobile dans beaucoup de grandes périphéries. Pas partout, certes pas. Mais on observe déjà des situations tout à fait claires sur ce plan.
Il y a 3 ans, Alicia et Marcelo ont troqué leur voiture contre une trottinette et de bonnes chaussures.
On fait des économies. On a calculé que les frais liés à la voiture nous revenaient à 300 euros par mois environ.
Les courses, le travail, les sorties, pour tous leurs déplacements quotidiens, Alicia et Marcelo marchent. Pour gagner du temps dans leur trajet, ils ont le Metro Minuto, un plan spécial piéton créé par la mairie. Cette vie sans voiture est devenue le quotidien des 83 000 habitants de Pontevedra. Ici, pas d'accident de la circulation et pas d'embouteillage. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 15 ans, 30 000 véhicules traversaient chaque jour le centre-ville, jusqu'à ce que le maire décide de faire de Pontevedra la première ville sans voiture au monde. En 15 ans, la pollution a diminué de 90% et les habitants se sont réappropriés le centre-ville.
Avant, il n'y avait pas de terrasse, il y avait des voitures garées partout.
Mon chiffre d'affaires a augmenté de 20 à 30% grâce à l'installation de la terrasse.
En 10 ans, Pontevedra a gagné 10 000 habitants. Et le modèle créé dans cette petite ville de Galice intéresse aujourd'hui des métropoles comme New York ou Paris.
Alors voilà, extrait d'un reportage de LCI, c'était diffusé en janvier 2016 sur cette ville Pontevedra du zéro voiture. Est-ce que cet exemple quelque part reste une exception et quelque part un idéal peut-être accessible surtout pour les petites villes, ou est-ce qu'on peut se dire qu'on peut essayer de construire des politiques de la mobilité, des politiques d'urbanisme qui viseraient peut-être comme idéal d'arriver à du zéro voiture, ou en tout cas le poser comme un principe pour construire ces politiques. Alors, peut-être Hélène Régnier ?
Oui, en fait, à travers cet exemple, il y a l'idée un peu plus globale des alternatives, des modèles alternatifs, puis des utopies, et des utopies urbaines, des utopies sociales qu'on a envie d'avoir et de porter. Alors, c'est vrai que l'automobile a été tellement un symbole d'une époque, d'un développement capitaliste industriel, que elle véhicule, sans mauvais jeu de mots, elle peut être porteuse d'utopie. Et je voulais revenir, je pense qu'il y a un vecteur d'utopie qui pourrait être la lenteur. Je reviens sur ce que disait Jean-Pierre Orfeuille, la question de la vitesse. Au-delà du mode automobile, que ce soit pour le mode ferré, où on a privilégié les TGV sur les TER pendant très longtemps, on n'en est peut-être pas encore complètement sorti, pour le mode routier. Donc, à chaque fois qu'on fait de la promotion de la vitesse, ça joue contre le maillage du territoire. Autant, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas atteindre tous les objectifs de toutes les nuisances de l'automobile, autant en réduisant les vitesses, on n'a pas beaucoup de certitudes en aménagement urbanisme, mais en réduisant les vitesses, on est à peu près sûr qu'on gagne sur tous les tableaux. Il y a moins d'insécurité routière, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution. Donc on en a peu des outils couteau suisse. Donc on a beaucoup parlé de l'espace que prend la voiture dans la ville, mais on pourrait... Alors c'est un levier, mais il y aurait peut-être un autre levier porteur d'utopie, porteur d'alternative, qui serait d'accepter collectivement d'aller moins vite. Cette lenteur qui pourrait toucher tous les domaines de notre vie quotidienne, et y compris celui de la mobilité.
Alors, il nous reste 10 minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais qu'on aborde aussi la question des moyens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place des politiques pour réduire la présence des voitures, alors pas seulement en centre-ville, comme vous l'avez dit, Frédéric Errand, mais dans l'ensemble de la ville. Pour reprendre cet exemple peut-être emblématique de la rue de Rivoli, donc cette grosse artère de Paris où il y a actuellement deux files de voitures, une file d'automobile. Le projet, c'est supprimer une file de voitures, mettre une piste cyclable à double sens. Est-ce que ça, c'est une règle mathématique, on va dire, incompressible, indépassable? Si on veut faire de la place à d'autres modes de transport, il faut forcément en enlever. Jean-Pierre Orfeuille.
Oui, c'est indiscutablement. Quand vous avez une place limitée, il faut les conditions du partage sont assez prédéterminées. Mais après, il y aura très vraisemblablement moins de voitures qui circuleront au rue de Rivoli. Et bon, j'ai pas d'opinion là-dessus. Hein. En revanche, les besoins de déplacement ne disparaissent pas pour autant. Hein. Besoin de déplacement ne disparaissent pas pour autant, et ceux qui, alors il n'y en a plus beaucoup, hein, mais qui utilisaient la voiture rue de Rivoli, peut-être qu'ils iront faire leur déplacement ailleurs, qu'il y aura des changements de destination et on retrouvera un peu plus de voitures, de l'autre côté du périphérique. Enfin, mais ne soyons pas naïfs au point de croire qu'une voiture qui disparaît rue de Rivoli disparaît pour l'éternité et de partout. Hein.
Donc, il y a déplacement du problème. Et non.
Il y a d'une certaine façon une partie qui est un déplacement du problème et une partie qui sera peut-être une incitation, effectivement, surtout si on fait des bonnes pistes cyclables, à être plus en vélo ou à être plus dans des bus, dans des métros, ou tout ce que vous voulez.
Bon. Vous parlez d'incitation, mais justement, est-ce que l'idée, c'est de, quelque part, en mettant cette file unique, de se dire, on va créer au début des bouchons, et les automobilistes vont finir par se dire, eh ben, je vais plus avoir intérêt à prendre d'autres modes de transport, mais ça passe quelque part par, dans un premier temps, rendre la vie difficile, voire impossible, à ceux qui utilisaient la voiture. C'est une politique particulière d'incitation comme ça, par la contrainte, Frédéric Héran.
Oui, alors, le report modal, c'est-à-dire le passage d'un mode de déplacement à un autre, ne fonctionne pas du tout comme on le croit. C'est-à-dire, c'est pas les automobilistes auxquels on met un couteau sous la gorge qui vont se mettre au vélo. Ça se passe pas du tout comme ça. Surtout à Paris. Alors, je vais expliquer en gros comment ça se passe. C'est en fait l'ensemble des modes de déplacement qui se recomposent. Il faut savoir que les nouveaux cyclistes, en général, c'est pas d'anciens automobilistes. Ils ne sont qu'à 10, 15, 20% si c'est des VAE, c'est-à-dire des vélos assistance électrique, qui sont d'anciens automobilistes, mais pas plus.
Donc sont quoi, des anciens utilisateurs de bus ou de métro ?
Comme l'a dit Jean-Pierre très bien, les automobilistes se mettent à prendre les transports publics, mais si les transports publics deviennent un peu trop saturés, peut-être qu'une partie de ces usagers vont se mettre au vélo. Vous voyez, c'est tout l'ensemble qui se recompose. Et dans une ville où les signaux sont très clairs, Paris, les gens ont compris que la voiture, c'est pas le mode le plus pratique, quoi. Donc tous ceux qui viennent s'installer à Paris, et c'est comme ça que le report modal s'instaure, ce sont ceux qui viennent à Paris, et ils sont nombreux. Chaque année, on a à peu près 4 à 5% de la population qui se renouvelle. C'est énorme, surtout dans les centres-villes, hein, c'est le cas des centres-villes. Eh bien, c'est cette population qui, d'emblée, sait qu'elle n'aura pas de voiture, elle se déplacera autrement, elle se mettra au vélo, à la marche, que sais-je. Voilà comment fonctionne le report modal. Et en même temps, je voudrais rajouter, rue de Rivoli, il se passe un phénomène qu'on commence à admettre aujourd'hui, déjà depuis quand même quelques années, c'est ce qu'on appelle le trafic évaporé. C'est-à-dire que quand vous contraignez la voiture, au contraire de ce que disent les modèles de trafic, qui n'arrivent pas à tenir compte de tout, qui sont très élaborés, qui sont des outils formidables, très utiles, et qui n'arrivent pas à tenir compte de tout, il y a une partie des gens qui vont imaginer se déplacer autrement. Et là encore, c'est souvent les nouveaux arrivants qui vont d'emblée se déplacer autrement. Donc ce n'est pas du tout les automobilistes qui vont se mettre au vélo.
Mais est-ce que vous voulez dire que quelque part il y a un échec des politiques de mobilité à toucher l'ensemble des utilisateurs ? C'est-à-dire on va systématiquement toucher ces populations qui vont passer du vélo au bus, au métro et en particulier voilà, les nouveaux arrivants de Paris. Je vous en prie.
Quand les politiques ont des injonctions du genre « mettez-vous au vélo » en s'adressant aux automobilistes, ils se trompent, largement. Ce qu'ils devraient dire, c'est « les nouveaux arrivants de Paris, vous savez que la ville de Paris, elle n'est pas vraiment faite pour les voitures, mais pour d'autres modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. » C'est ça qu'ils devraient dire.
Hélène Régnier, pour sortir peut-être de l'exemple parisien, comment est-ce que vous voyez la manière dont une politique publique peut accompagner des changements de comportement? Est-ce qu'il faut être sur la contrainte? Est-ce qu'il faut être davantage sur l'adhésion?
Je ne sais pas s'il faut chercher jusqu'où il faut chercher à contraindre. Je pense qu'on peut... On peut assez raisonnablement au moins essayer d'avoir des politiques qui soient pas trop ambivalentes vis-à-vis de l'automobile. Je reviens sur cette idée. Gabriel Dupuis, qui avait beaucoup écrit sur l'idée de système automobile et de dépendance automobile. Voilà, on vit dans un système hérité qui a été conçu, bâti avec cet objet, qui a permis d'accroître les distances, qui a permis de gagner du temps. qui était un symbole de modernité, votre archive sonore en témoignait. Aujourd'hui, il faut comment on bascule, hein, c'est pas simple, il y a pas de recette magique, de recette miracle qui marche partout, hein, tout le temps. Il y a un principe, il y aurait un espèce de principe, c'est de créer un diff, c'est ce que nous dit Gabriel Dupuis, hein, créer un différentiel d'accessibilité qui serait en défaveur de l'automobile. Et ce qu'on constate, alors voilà, moi je suis dans le sud-est, mais voilà, je ne suis pas restée tout le temps, je connais des choses en dehors du sud-est, mais souvent quand même ce qu'on observe, c'est que en même temps qu'on a eu une offre significative, hein, en mode alternatif, un effort financier conséquent qui a été fait par les collectivités locales pour les régions avec leur TER, hein, à toutes les échelles, les agglomérations, les métropoles. En même temps qu'on a eu ces efforts pour offrir du transport public, de l'aménagement favorable à la mobilité piétonne et la mobilité cycliste, ben on a eu aussi des investissements routiers importants, ce qui fait que voilà, moi j'habite dans une petite commune à 30 km d'Aix et à peu près autant de Marseille. Il y a rien de plus efficace que l'autoroute pour faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. On m'a proposé une offre autre, mais compte tenu de nos modes de vie, de la façon j'en reviens aussi à l'idée de vitesse, on a continué d'améliorer aussi l'accessibilité automobile en me proposant des parcs stationnement souterrains qui me permettent d'arriver au cœur d'Aix, quand bien même en surface on a chassé la voiture d'Aix-en-Provence, mais je peux y arriver très facilement dans des parcs souterrains. Donc en fait on m'a proposé une offre alternative, mais on continue de me proposer, en tant que, là je parle en tant qu'usager, citadine, on continue aussi de me proposer une accessibilité automobile très performante. Donc compte tenu des contraintes qui sont les miennes, de manière rationnelle, je continue d'utiliser ma voiture.
Donc il faudra faire encore des efforts du côté des collectivités locales, des politiques publiques pour rendre la voiture peut-être moins attractive que d'autres modes de transport, si je comprends bien. Mais en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Frédéric Errand, Jean-Pierre Orfeuille et Hélène Régnier. Merci aux équipes de France Bleu à Aix-en-Provence pour la liaison avec le duplex. Les références, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres. Et bien c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Philippine Lebray, Cédric Fuentes, Juliette Montilly, Iseult Sicard et Pierre Testard. Réalisation Romain Masson, prise de son Jean-Frédérix, droit d'auteur Tom Delay 13.